pour chanter la magie noire de Savado. Les hommes se taisaient, un silence épais, capiteux parfum de la mort. Le regard perdu près des grands docks nus, des rêves et des cités d'or. Mais c'est des histoires que racontent les escales, un marin cavale qui a changé de nom. Mais c'est des chansons de cordage et d'étoiles, mystérieuses et fatales, rescapées des typhons. Maria Bonita, dans son fourreau noir, la légende de la Joliette. Pouvez-vous lancer d'une voix cassée un sort au-delà des tempêtes? Parfois son sourire chargé de désir laissait un marin sur la plage. Marseille savait que ceux qui restaient.
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avec au programme deux ouvrages différents mais aussi intéressants l'un que l'autre. Le premier s'intitule « Jusqu'à ce que mort s'en suive », il est paru chez Gallimard et son auteur c'est Olivier Rollin. Oui, il y sera question des journées de juin 1848 et au-delà. Et le second est un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions de l'Olivier. Ce recueil de nouvelles a été écrit par Erwan Desplanques et s'intitule « La part sauvage » ou « Comment des vies ordinaires peuvent être amenées parfois à basculer ». En tout cas, des textes vraiment très sensibles et très fins. Voilà pour le programme du jour. On retrouve tout de suite donc Olivier Rollin, « Jusqu'à ce que mort s'en suive », paru aux éditions Gallimard. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Olivier Rollin pour son dernier roman qui est paru aux éditions Gallimard et qui s'intitule « Jusqu'à ce que mort s'en suive ». Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. On a discuté avec Gérard Guégan qui l'a déjà chroniqué et on était tout à fait d'accord par rapport à la passion que nous suscite ce livre parce que c'est un livre absolument, effectivement, absolument passionnant. Pour plein de points. D'abord, par son sujet, l'histoire de ces deux personnages qu'on découvre grâce à Victor Hugo. Et il faut partir de là, effectivement, dans Les Misérables. Victor Hugo évoque deux manifestations de l'insurrection de 48, deux barricades, qui sont tenues chacune par un des protagonistes qu'on va retrouver dans « Jusqu'à ce que mort s'en suive ». Alors, déjà, on va parler de Victor Hugo et de ce passage des Misérables qui est un petit peu particulier quand même.
Oui, parce que c'est le premier chapitre de la cinquième partie, enfin peu importe, mais c'est le moment précis où Hugo recommence à écrire Les Misérables.
Après avoir laissé tomber
pendant 13 ans. Le livre s'appelait Les Misères jusqu'en 48. En 48, il le laisse tomber et il fait des tas de choses, comme on sait, entre temps. Et il ne recommence à l'écrire que quand il est en exil à Guernesey pendant l'hiver 61-62, si je ne me trompe pas. Bon, donc c'est le moment précis où il recommence à écrire. Et c'est une digression sur ces deux barricades formidables des journées de juin 48. Ça n'a rien à faire dans l'histoire du Misérable. Enfin, lui-même le dit.
C'est même pas la même époque.
Voilà. Donc, c'est pas la même. Enfin, c'est la même époque, mais c'est pas du tout les mêmes années, etc. Ouais. Bon. Donc, qu'est-ce que ça fait là ? Et je pense que ce que ça fait là, c'est que en 48, enfin pendant les journées de juin 48, Hugo était encore le grand. Enfin, il était encore en France. Il était le grand personnage. Il était le père de France, l'ami du roi Louis-Philippe. Enfin, Louis-Philippe vient d'être chassé, mais quand même. Bon. Et il est du côté du parti de l'ordre, enfin, il est du côté de ceux qui assaillent les barricades. Bon, alors il n'est pas, il ne donne pas l'assaut avec un coup de fusil, etc. Il est au contraire de ceux qui essaient de faire que la répression ne soit pas trop féroce. Il va même jusqu'à cacher des insurgés qui ont échappé aux exécutions, etc. Mais enfin, il est quand même du côté de Cavaignac, etc. Bon. Et quand il recommence à écrire Les Misérables, donc 13 ans plus tard, évidemment, il a complètement changé. Il est devenu le grand insurgé, d'une certaine façon.
L'exilé,
le grand républicain, le grand opposant à Napoléon III, etc. Et par conséquent, il s'interroge, sans le dire explicitement, il s'interroge sur son rôle pendant ces journées-là. Bon. Donc ce qui donne des considérations extrêmement embrouillées et assez... en berlificoté, c'est des contorsions. Quoi. En fait, il dit, c'est difficile, cette insurrection, c'était quelque chose d'indéfinissable, c'était une insurrection du peuple contre lui-même, par amour du peuple, il fallait le réprimer. Bon, c'est, tout ça est un peu, moins qu'en puissance, c'est que c'est un peu tordu. Quoi. Donc on sent qu'il est embêté par cette histoire et qu'il essaie de montrer qu'il n'a pas été du si mauvais côté. Voilà. Bon. Mais toujours est-il, ça c'est son... Je pense que c'est ce qui se passe dans sa tête. Mais c'est l'occasion pour lui, donc, de mettre en scène, très brièvement, ces deux personnages qui vont devenir les personnages de mon livre, plus modeste que Les Misérables.
Oui, oui, oui. Alors, on va parler de ces deux personnages dans quelques instants, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir, justement, et on le sent très, très bien dans Jusqu'à ce que mort s'en suive, Olivier Rollin, donc ce livre paru chez Gallimard, on sent très bien... Vous explorez la question des rapports entre l'histoire et la fiction. Et ça, ça m'a intéressée, parce que vous cherchez ces deux personnages qui sont les deux fils rouges du livre, au travers de tous les écrits qui ont pu être faits sur eux. Et on voit justement comment l'histoire, comment le fait brut est déformé, ou parfois on ignore totalement ce qui s'est passé, mais on a un récit autour des événements. Et c'est intéressant de voir comment fiction et histoire brute s'entremêlent.
Oui, particulièrement dans le cas de Hugo, qui est un grand fictionnel.
Bon, oui, d'imagination.
Non, mais c'est drôle, parce que en revanche, il y a par exemple ce livre dont je parle, que je cite souvent dans mon propre bouquin, ce livre de Hugo qui s'appelle Histoire d'un crime, et qui est la relation, mais vraiment, journalistique dans le sens le plus noble du terme, le plus élevé du terme, quoi. Journalistique et en même temps engagé, puisqu'il était bon de la résistance au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, donc 2 décembre 1851. Bon, 2, 3, 4 décembre. Bon. Et là, il est extraordinairement précis, extraordinairement factuel, etc. En revanche, quand il parle de cet autre événement des journées de juin, donc dans Les Misérables, oui, là, en effet, il bidonne pas. Encore une fois, du point de vue de l'analyse politique, il bidonne, à mon avis, je dis tout ça avec la plus grande admiration qu'on doit avoir pour Hugo. Hein. Bon, mais même du point de vue factuel, il arrange un peu les choses, parce que Hugo aime bien les grandes oppositions, donc ces deux personnages-là, Barthélemy et Cournet, qui sont en vérité des personnages assez opposés, puisqu'ils vont finir par se battre en duel et l'un va tuer l'autre. Bon. Mais quand même, il en remet, y compris sur leur apparence physique. L'un est une espèce de géant tonitruant, l'autre est un gamin chétif, comme dire. Enfin, bon, voilà, il lui faut... Bon. Le lieu de la barricade de Barthélemy n'est absolument pas exact, ni même la description de la barricade. Bon, bon, voilà. Et... Donc il raconte des faits réels, mais en les embellissant, ou en les déformant pour satisfaire, enfin pour que ça corresponde à sa vision de l'histoire, quoi. Et en l'occurrence, sa vision de l'histoire, c'est qu'il y a, c'est la même que dans 93, c'est qu'il y a une révolution généreuse et une révolution dogmatique et froide, quoi.
Oui. Glacée. Ça on va en parler, oui. Parce qu'effectivement, c'est dans tout le livre Olivier Rollin. Mais pour revenir à ce texte d'Hugo, avec ces deux barricades qu'il décrit, c'est du Hugo aussi, parce que le papillon blanc qui vole, oui, est terminé sur l'été n'abdique pas. C'est
oui,
trop beau.
C'est trop beau, oui. Alors, c'est absolument... Alors ça, je suis sûr, en effet, le papillon, Hugo, il peut tout inventer, bien sûr. Mais je suis sûr qu'il ne l'a pas inventé, et d'autant plus qu'il y a quand même ce détail... parfaitement émouvant, quoi, c'est que c'est la seule fois, il dit, je me souviens d'un papillon blanc qui voltait au travers de la rue, etc. Bon, et c'est la seule fois où il dit je, où il parle de lui-même en disant je. Dans le reste des Misérables, quand il parle, il lui arrive de prendre la parole, mais il dit l'auteur de ses pages ou l'auteur de ses lignes, etc. L'auteur de ses pages est absent de Paris depuis bien longtemps, etc. Et là, il dit je. Bon, voilà, c'est la seule occurrence d'un je qui est lui-même. Donc c'est vraiment une chose vue, ce papillon, et c'est magnifique.
C'est très très beau.
Je suis la route. voix du lien. Un jour si je me range, le plus bon volant, ne sois plus mon gardien, l'ayant du préjugé.
Il y a un autre jeu qui va intervenir, c'est Olivier Rollin, qui va retourner sur les lieux des barricades, qui va explorer le Paris de maintenant pour essayer de voir effectivement ce qu'il en est de la description de Hugo, mais pas que.
Oui, c'est vrai qu'une chose qui me touche particulièrement, c'est de voir dans la ville, dans les villes, dans la mienne par exemple, dans Paris, dans la ville contemporaine, ce qui subsiste la marque de ce qui a disparu, voilà. Et donc, des barricades, il reste rien, mais il reste les maisons qui ont, par exemple, les deux immeubles en bas de la rue du Faubourg du Temple, qui ont d'ailleurs été de nouveau ensanglanté par les attentats djihadistes, le Bataclan, le jour du Bataclan. Bref, ces deux immeubles-là sont les mêmes. On les reconnaît sur des gravures de l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de gravures faites de cette insurrection. Bon, donc c'est les mêmes, mais en même temps c'est pas les mêmes puisqu'il y a un McDo en bas. Bon, et voilà, le lieu de la barricade, le lieu réel de la barricade de Barthélemy, ça a complètement changé. Bon. Mais tout de même, on peut le reconnaître. Il y a les cartes de l'époque, et puis il y a le canal qui passe à côté, et puis il y a le souvenir du gibet de Montfaucon qui était juste à cet endroit-là. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, trouver se promener dans la ville en essayant de voir les infimes, les traces infimes, où quelquefois il n'y en a aucune, mais on n'en a que par la littérature, quoi. De ce qui a été là, de ce qui a été et ce qui n'est plus.
Oui, c'est d'autant plus important. Et moi, j'ai bien aimé ce jeu de miroir, Olivier Rollin, dans Jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que, en plus, c'est le pari d'avant Haussmann. Que vous convoquez, et ce pari-là, on ne le connaît pas. On le connaît pas bien quand on évoque, quand vous évoquez les buts de Chaumont, par exemple, quand vous évoquez ce pari-là, c'est un pari qui a totalement disparu. Haussmann a tout rasé et vous redonnez vie à ce qui existait à l'époque.
Oui, oui, les buts de Chaumont, par exemple, c'est absolument stupéfiant. Les buts de Chaumont, c'était complètement pelé. Il y avait des carrières de gypse, qu'on faisait ensuite cuire quoi, dans des fours. Il en subsiste, par exemple, dans l'onomastique, la rue des chauffourniers, c'était la rue des gens qui faisaient du plâtre en faisant cuire du gypse. Bon, et donc il y avait cette butte pelée comme ça, et en dessous il y avait donc ce qu'on appelait la grande voirie de Montfaucon. Qui est donc à l'emplacement actuel de la rue de Meaux, quoi, et qui était l'endroit où on déversait venaient des tombereaux qui déversaient toutes les fosses d'aisance de Paris.
De Paris.
Voilà. Donc vous imaginez la puanteur extraordinaire. Bon, il y a des auteurs, enfin des espèces de journalistes, etc., à l'époque, qui ont décrit ça. Bon. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait l'endroit également où on tuait et où on dépeçait, etc., tous les chevaux de Paris. Bon, et donc des chevaux, à l'époque, des chevaux, il y en avait des centaines de milliers dans Paris. Bon, voilà. Donc c'était un endroit qui était dévolu entièrement à la merde,
à la
pourriture, aux entrailles, aux viscères, au sang, etc. C'était un endroit absolument, c'est une espèce de représentation de l'enfer, quoi, sur Terre, quoi, avec au-dessus cette butte qui ressemblait au Golgotha, quoi, si on en croit les peintures.
Oui, tout ça, on découvre dans Jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y aura l'équivalent avec Londres après, mais on en parlera un peu plus tard. Mais dans ce Paris, il y a donc les deux personnages évoqués par Victor Hugo, les Barthélemy et Corneille. Deux univers complètement différents. Mais en même temps, ce qui m'a intéressé à vous lire, Olivier Rollin, c'est qu'ils ne sont pas monolithiques et qu'on va les voir évoluer, et notre point de vue aussi, notre perspective va évoluer par rapport au personnage. C'est-à-dire qu'on va les trouver sympathiques ou pas, rebutants ou pas, et ça va changer au fur et à mesure du passage du temps. Alors on va commencer par parler de Barthélemy, parce que c'est le premier qu'on croise.
Oui, c'est le plus important.
Oui. Je sais pas, mais enfin bon, en tout cas, c'est la figure du militant.
Oui.
Alors, on va dire ça pour résumer de manière un peu caricaturale, mais c'est le type. Et alors c'est intéressant parce qu'on voit, ne serait-ce que par rapport à cette description physique, on en aura plusieurs au fur et à mesure du livre, fait par différents protagonistes, et on se dit, tout ça pour un seul homme.
Oui. Mais par exemple, Hugo ne l'aime pas, évidemment. Parce que donc, Barthélemy, c'est en effet, d'abord, c'est un prolétaire, et c'est en effet, c'est un blanquiste. Donc, blanquiste, c'est
pur et dur.
Blanquiste, c'est une espèce de pré-Lénine. Enfin, c'est théoricien et praticien sur toute l'insurrection, etc. Et puis, en fait, des sociétés secrètes, des sociétés révolutionnaire, très discipliné, etc. Bon, bien. Et donc, Hugo, pour toutes ces raisons-là, l'aime pas. Et il le décrit donc comme un gamin sinistre, un gamin tragique. Bon, enfin, c'est assez beau, dire comme formulation, gamin tragique, parce que c'est un peu le contraire de Gavroche, quoi. Bon, même s'il joue pas du tout le même rôle que Gavroche, et qu'en plus, lui, il a vraiment existé. Bon, mais en tout cas, il n'était pas du tout, en vérité, il n'était pas. Quand on consulte, enfin, ce que j'ai fait, bien sûr, tous les journaux de l'époque, parce que ce type, il passe combien, 4 fois dans sa vie devant les tribunaux.
Devant les juges.
Et la dernière fois, ça se termine
pas bien.
Bon, en tout cas, il n'était pas du tout chétif comme le décrit Victor Hugo. Il n'était pas du tout cette espèce d'ombre sinistre que Hugo décrit. C'était un type plutôt costaud, au contraire. Bon, et voilà. Et donc c'est vrai que c'est assez. Enfin, quand on écrit, enfin surtout quand on prépare le travail, quand on documente, etc., c'est assez fascinant de. Voilà, c'est un travail d'enquête, quoi, d'enquêteur. Quoi, et c'est assez fascinant de voir progressivement se dégager de la fiction, de l'être de fiction, un être réel.
C'est
avec les cheveux très noirs, avec voilà, des marques de petites véroles, avec sa taille qui est 1m70, c'est-à-dire qu'il n'était pas si petit que ça, c'est la taille de Hugo en l'occurrence. Bon, et, enfin, c'est la taille moyenne, je pense, d'un Français de l'époque. Bon, enfin bref, de le voir, même physiquement, devenir un être réel, quoi, c'est enfin, aussi réel que peut l'être un être du passé. Voilà, c'est assez fascinant. Et puis alors, d'autre part, en effet, comment dire. Voilà, il y a des moments où on déteste, il y a des moments où on l'admire, il y a des moments où on l'aime même. Bon,
ouais, voilà, oui, il est fascinant.
Il est fascinant, il est très intelligent, il est d'un courage indomptable, il est d'une énergie absolument implacable, quoi. Ouais. Alors ce qui donne quelquefois un personnage qui pourrait devenir, dans la Révolution russe, qui pourrait devenir un agent du NKVD, un type, un policier politique terrible, quoi. Bon, parce qu'en plus, c'est un paranoïaque, évidemment. Enfin, il a quelques raisons de l'être, mais bon. Donc, à certains moments, il est d'un sectarisme et d'une
insupportable.
Et puis, à d'autres moments, et spécialement quand il est devant ses juges, par exemple, il est d'une dignité, d'un courage formidable. Il ne leur cède absolument rien. Il leur répond à la fois avec une audace complète et en même temps une espèce de correction glacée qui les méduse, les juges, parce que donc il est. Ben, tant oui. Il est un personnage. Enfin, il y a un moment, un type, quand il est à Londres, il y a un Allemand exilé aussi, qui dit de lui, qui est plutôt terrifié par lui, mais qui dit, c'est ce genre de personnage qui peut faire aussi bien un bourreau implacable qu'un héros dans des barricades, enfin sur une lutte révolutionnaire. Il est tout ça. Il est entre le héros et le bourreau. Voilà.
Oui.
Mais toute l'histoire des révolutions, à vrai dire, nous a montré que c'est une, enfin que c'est pas si rare que ça, quoi, cette oscillation.
Toute la terre, chaque prolétaire a frémi d'un immense espoir. Ce d'Oviedo d'un splendide élan ont rejeté soudain leur carcan, ont pris le pouvoir. Ce d'Oviedo, la victoire entière par toute la terre ne viendra qu'après mains efforts. Ce d'Oviedo ont lancé l'action, l'Espagne a touché du doigt l'essor des révolutions. À Oviedo, c'est d'Urga tranquille, de la mine hostile, armée d'explosifs de chantier. Sous leurs barrettes en bourgeron noir, ont pris d'assaut palais et manoirs, héros ouvriers. Ce d'Oviedo, à leur cigarette, allumons la mèche de leur grenade de fer blanc. Pendant des jours, ils ont repoussé les mercenaires contre eux, lancés par les possédants. Ce d'Oviedo, c'est sans sou ni maille, en pleine bataille, ont protégé les gens, les biens. Parmi l'horreur de la lutte à mort, il préparait un plus juste sort, les droits et le pain. Ce d'Oviedo, tremblante de haine, lâche et inhumaine, la réaction les écrasa. Toute une armée à coups de canon fille d'Oviedo, un tombeau sans nom. Partout on trembla pour Oviedo. L'âpre bourgeoisie, malgré ses tueries, n'aura nul repos désormais. L'Espagne entière a frémi d'horreur. Le jour approche où par sa fureur seront bien vengés. Ce Oviedo.
Oui, puis c'est la question du choix, justement. Quand on commence à avoir un idéal révolutionnaire, c'est jusqu'où va-t-on et comment on aborde la révolution, oui, et puis, comment on aborde l'engagement.
Oui, et puis... jusqu'où va-t-on? Et puis, est-ce qu'un idéal révolutionnaire oblige à penser qu'on est le seul ou les seuls à détenir l'absolue vérité? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité, je dis, éventuellement même chez les opposants, mais en tout cas chez les autres qui ne sont pas exactement de la même chapelle que nous? Je dois dire, bon, puisque ce n'est pas un secret, que j'ai été militant gauchiste très radical il y a quand même assez longtemps. Je dois dire que ça me rappelle des choses, évidemment, les oppositions féroces qu'il y avait entre différents groupes, qui auraient dû être qui étaient d'ailleurs à peu près du même côté, mais qui ne s'en détestaient pas moins. Bon.
C'est le propre de ce type de mouvement, avec les scissions qui s'ensuivent, oui, et les querelles.
Voilà,
qui
est accentué par le fait que c'est surtout à Londres que ça se manifeste, parce que dans le milieu de l'exil. Bon, donc, sur les tout petits, mais, enfin, ils sont quelques centaines, ils sont coupés de tout, ils sont coupés complètement de la vie anglaise, et ils sont à peu près complètement coupés de la vie française. Bon. Et donc, évidemment, à l'intérieur de ce vase clos, ça mijote affreusement. Quoi.
Oui, il ira quand même jusqu'à penser que Marx est un pacifiste, donc
oui,
il va se brouiller avec lui.
Donc, et même à envisager, semble-t-il, de l'assassiner.
Ouais, donc, mais ça, c'est pour la partie Londres, parce que ce qui m'a intéressé chez ce personnage, c'est que jamais il ne renonce, mais que ce n'est pas un théoricien, c'est un homme d'action. Mmh. Il a quand même été condamné deux fois au bagne à vie, il est allé au bagne. Il a bénéficié d'une grâce qui lui a permis de revenir, il est allé...
Vous avez raison, il a bénéficié d'une grâce, parce qu'il y a eu la révolution de 48, et donc il a été considéré, à juste titre d'ailleurs, comme un prisonnier politique, et en effet libéré.
Et après, bon, il s'est échappé, enfin, plein de choses, c'est un homme de terrain.
Oui, non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, en plus, c'est qu'il fait quand même, donc, 8 ans de bagne, si je ne m'abuse. Il est mis au bagne, il a 17 ans. Bon, il est libéré du bagne donc par la révolution de 48, la révolution de février 48. Bon, eh bien, on pourrait considérer qu'il pourrait se dire, bon, mais ça va, j'ai...
Et non,
en juin, donc, mars, avril, mai, juin, 6 mois après, il est de nouveau sur les barricades. Et il est de nouveau condamné au bagne à perpétuité. Bon, je veux dire, c'est un type qui...
Il
en a vraiment.
Quand il est fascinant quand il est sur cette barricade, parce qu'il est décrit comme quelqu'un qui respecte les opposants, qui ne tue pas brutalement, enfin qui n'est pas un monstre.
Oui,
enfin,
ça me rappelle.
Très, très noble.
Non, au contraire, il a un comportement extrêmement noble. En effet, il tient à payer parce qu'il faut qu'il ravitaille les gens de la barricade en pain, en vin, etc.
Il
paye les commerçants, ou il essaie de les payer en tout cas. Enfin, il les paye tant qu'il a de l'argent, et puis sinon, il leur fait des bons. Pour qui sera payé par la République démocratique et sociale, ça leur a pas fait beaucoup d'argent, mais bon, mais ça me fait penser, je me souvenais, il y a une chanson sur les insurgés, ça n'a rien à faire, un autre temps, quoi, les insurgés espagnols d'Oviedo. Je me souviens de cette chanson qui est assez belle et qui dit, il y a des paroles qui disent, c'est sans sou ni maille, en pleine bataille, ont respecté les gens, les biens. Bon, et là, c'est comme ça. Il tient à ce qu'il y ait une espèce de morale révolutionnaire.
Oui,
quoi,
c'est ça, il y a une éthique, tout à fait. Et donc, dans ces moments-là, il est fascinant. Et quand il est jugé, effectivement, il est fascinant aussi. Et ça fait, j'allais dire, contrepoids par rapport à Cournet, qui, lui, a des débuts complètement différents. Vous évoquez Olivier Rollin dans Jusqu'à ce que mort s'en suive, ce personnage, en disant, lui, c'est la figure de l'aventurier.
Oui. Oui, c'est ça, oui. Je reprends cette opposition, enfin, qui est
classique.
Mais je me suis ressouvenu à ce moment-là du bouquin de Roger Stéphane qui s'appelle Portrait de l'aventurier et de la préface que Sartre avait faite. Et où Sartre, donc, il distingue, dit, voilà, il y a deux types, deux grands types, comme ça, dans les grands mouvements révolutionnaires, le militant. Le militant, je trouve que c'est pas un très bon mot, d'ailleurs, c'est parce que... Mais enfin, en tout cas, c'est celui qui est... le radical, mais aussi celui que la nécessité sociale pousse à être un révolutionnaire.
Ah, ils sont pas des mêmes milieux, hein.
Voilà, et puis il y en a d'autres, et c'est des convictions progressistes quand même, bon, mais c'est aussi le goût de l'aventure, le goût de la fraternité, le goût du danger encouru, etc. Et Cournet, donc, qui est un ex-officier de marine, un officier de marine extrêmement indiscipliné,
qui n'embarque pas,
voilà, qui fait le malheur de ses la fureur de ses supérieurs, qui se fait porter pâle au moment d'embarquer, qui vit selon un amiral là, qui est son supérieur, qui fait la grande vie avec des filles dans une maison qu'il a louée à terre, etc.
Qui joue, qui
est criblé de dettes et tout ça. Enfin bon, bref. Donc
qui se fait remplacer par son frère.
Oui, ça c'est extraordinaire.
C'est
oui. Il est nommé commissaire adjoint de la République, c'est-à-dire sous-préfet, quoi, grosso modo, par la Révolution de 48. Et il se fait remplacer par son frère, lequel se fait encore remplacer par son frère.
Le sens de la famille.
Voilà. Donc c'est un personnage, c'est un peu un Jean Foutre, mais plutôt sympathique, oui, voilà, mais c'est pas du tout le même genre de figure, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment leurs destins se croisent, donc, parce qu'ils sont tous les deux sur les barricades en 48, pas du même côté.
Ah si, en 48,
enfin, oui. Et après...
Pas sur la même barricade.
Barricade, il y en a un qui est blanquiste, on l'a évoqué, l'autre c'est le Drurelin, donc ils ne sont pas faits pour s'aimer.
Non, ils ne sont pas faits pour s'aimer, mais il se trouve que quand même dans les journées de juin, ils sont du même côté. Mais en effet, le Drurelin, bon, c'est un genre de Robespierre en carton-pâte, quoi. Et c'est un républicain bourgeois, quoi. Voilà. Bon. Et tandis que l'autre, en effet, c'est un blanquiste, c'est-à-dire un révolutionnaire professionnel et jusqu'au bout et radical, quoi. Bon, donc ils sont, enfin, leur tempérament les oppose absolument, mais leur classe sociale, il faut le dire, les oppose aussi. Et leur attachement politique les oppose. Bon, cependant, toute cette opposition ne devrait pas aller jusqu'à un duel mortel, mais bon.
Alors, on laissera nos auditeurs découvrir dans le livre le parcours de ces deux personnages dans Jusqu'à ce que mort s'en suive, mais il faut évoquer le fait qu'effectivement, ils vont se retrouver au cours d'un duel. Où l'un d'entre eux périra, et en plus ce sera le dernier duel qui aura lieu
en Angleterre.
C'est totalement romanesque, quoi.
Oui, totalement, oui. Et pour les Anglais, c'est une chose absolue. Les Anglais déjà considèrent tous les exilés qui affluent à Londres comme des individus extravagants. Spécialement les exilés français, spécialement les exilés blanquistes, etc. Mais alors en plus qu'ils se permettent de se battre en duel sur des pelouses près du château de Windsor, c'est
impensable.
C'est absolument impensable, oui.
Chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canus, en draps, on nous enterre. C'est nous les canus, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canus, nous n'irons plus nus.
C'est nous les canus, nous n'irons plus nus.
Alors, vous évoquez, Olivier Rollin, donc, cette ville de Londres très noire, qui est la première ville d'Europe.
Du monde.
Qui est très sombre, qui est très sale, avec ses réfugiés, qui sont, ses exilés qui sont regroupés autour de Leicester Square, qui débarquent là, qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas vraiment la possibilité de travailler parce qu'ils ne parlent pas la langue et puis qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que c'est une ambiance très particulière, en fait.
Oui, c'est une ambiance. Alors, d'abord, l'ambiance, juste deux mots sur, l'effet, sur l'ambiance physique, quoi. On a du mal à imaginer. Je dirais, en effet, c'est la plus grande ville du monde et c'est la capitale mondiale de l'industrie.
C'est noir.
Et l'industrie, à l'époque, c'est le charbon. Ouais. Charbon de terre, comme on disait à l'époque. Bon, ça, tout marche au charbon. Et donc, tous les gens qui arrivent à Londres, et même les Anglais, il suffit de lire les romans de Dickens, la ville est noire, tous les bâtiments sont noirs, et le ciel, enfin, c'est un dôme, de suie, quoi. Et même quand il neige, la neige est noire. Bon, enfin bref, donc ça c'est le cadre physique. Et puis, j'ai oublié votre question, mais...
On parlait des exilés.
Oui,
les exilés,
ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont en général dans la misère. Ils parlent anglais ou apprennent l'anglais. Et donc, ils vivent dans un état de misère terrible. Et dans un état aussi de
suspicion,
paranoïa, enfin, comme on dit. Suspectant les uns les autres d'être des agents de Napoléon III, puisque c'est dans les années 50 et quelques. Alors il y a évidemment, en effet, des agents de la police de Napoléon III, mais enfin, tout le monde suspecte tout le monde, quoi, grosso modo. Et ça, ce sont les exilés eux-mêmes, enfin, les plus mélancoliques, les plus lucides qui le disent. Bon, il y a des témoignages d'exilés qui sont absolument désespérés de voir qu'il n'y a même pas de fraternité entre eux. Quoi, oui. Et ça, c'est chez les Français, mais c'est pareil chez les Allemands, quand on s'intéresse un peu à la position de Marx. Marx est extrêmement minoritaire et qui est considéré aussi comme un traître par Willich, etc., enfin par d'autres exilés allemands. D'ailleurs, les haines sont pareilles et vont aussi, d'ailleurs, dans le cas des Allemands, il y a aussi des duels, etc., enfin, entre exilés, quoi. Et tout ça dans l'indifférence complète des Anglais.
Alors, justement, il y aura cette scène de duel, et que j'ai trouvée passionnante, parce que là encore, c'est absolument improbable, ce pistolet qui ne fonctionne pas, cette manière de se rapprocher pour tirer. Enfin, on va pas dévoiler la scène, mais c'est absolument incroyable.
Oui, c'est un duel absolument plein de rebondissements. Enfin, je ne vais pas en effet le raconter, mais plein de rebondissements avec une arme qui semble. Enfin, les journaux anglais disent qu'elle a été trafiquée, mais en y réfléchissant bien, on ne voit pas très bien quel sens ça aurait, enfin, à quoi ça aurait servi. Bon. Enfin, bref, en tout cas, Voilà, c'est un duel qui dure très longtemps, parce que justement, plusieurs fois, le pistolet fait long feu, etc. Et puis qui se termine quand même par l'un des deux qui est...
L'un des deux va mourir, l'autre va donc survivre, va être arrêté, va être condamné, va s'en tirer d'une certaine manière, mais il sera de nouveau...
Alors voilà, quelques années après, le survivant du duel est impliqué, enfin, il est plus qu'impliqué, il commet un double meurtre, sans doute pas prémédité. Il se bagarre avec un type, il le tue, et avec un Anglais, bon, et puis ensuite il fuit, et il est attrapé dans la rue par différents personnages, et dans la bagarre aussi, qui tire, et il y a un deuxième qui est tué. Donc là, évidemment, son compte est bon, quoi. Il est arrêté, il repasse, donc c'est la quatrième fois qu'il est passé deux fois devant des cours d'assises ou des conseils de guerre en France, et c'est la seconde fois également en Angleterre qu'il passe devant un jury, et évidemment là il est condamné à être pendu juste par le coup jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui justifie le titre.
Ça s'appelle...
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que son comportement sous la potence, dans la prison sous la potence, c'est absolument admirable, quoi. C'est un type d'un courage extraordinaire, d'un sang-froid extraordinaire.
Même par rapport à la religion, par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est ça qui fait... inutile de dire que moi, c'est le personnage qui m'a le plus fasciné. Il disparaît assez vite quand même. Barthélemy, de par sa complexité, de par ses mouvements et tout, et en même temps par ce côté qui ne bouge pas, moi, je l'ai trouvé absolument incroyable. Donc c'est un personnage qui va rester.
Il n'était pas resté pourtant.
Merci d'aller le rechercher.
Oui, en plus tout a disparu de lui, enfin à ma connaissance, puisque tout le monde a compris que celui qui est tué dans le duel, c'est celui qui normalement n'aurait pas dû l'être, puisque c'est lui qui a la plus grande expérience des armes, etc. C'est l'ex-officier de marine là, qui est tué dans le duel, et c'est donc Barthélemy qui va être pendu. Alors. Courneil reste sa tombe dans un cimetière près de Londres, dans un cimetière anglais, etc. C'est marqué, Courneil, la République démocratique et sociale, etc. Enfin bon, voilà. Mais lui, il reste son souvenir quand même. Bon, voilà. Alors que l'autre, il a été enterré dans l'enceinte de la prison. La prison a été démolie à la fin du XIXe siècle. À sa place se dresse maintenant ce qu'on appelle Old Bailey, c'est-à-dire la cour centrale de justice, ce monument pharaonique, énorme, écrasant, etc., dans Londres. Bon, ses restes ont disparu. Il ne reste rien de lui. Il paraît qu'il avait écrit des feuillets, des lettres, etc., dans sa prison pendant les jours, les deux semaines qui précédaient l'exécution, qui ont disparu également, autant que je sache. Enfin, en tout cas, elles n'ont pas été retrouvées à l'époque. Et voilà, j'espérais voir son masque mortuaire, parce que on prend les Anglais prenaient les masques. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Enfin voilà, il ne restait apparemment rien de lui.
Oui, alors, ce qui m'a touchée aussi, c'est que dans la description de ses derniers moments, il demande à être, donc au moment de l'exécution, avoir une lettre dans les mains.
Oui, alors ça c'est très romantique.
Et ça c'est extrêmement romantique, parce que c'est une lettre, probablement une lettre d'amour, d'une femme, parce qu'il y a la femme, un petit peu comme dans Sherlock Holmes, dans Sherlock Holmes avec Irène Adler, quoi. Il y a la femme, et oui, ça rajoute une touche particulière.
Oui, c'est très émouvant, en effet. Il résiste jusqu'au bout.
Inflexible.
Il résiste jusqu'au bout, mais très courtoisement aussi, aux tentatives de conversion que font les d'abord le chapelain anglican de la prison, et puis ensuite un prêtre catholique. Bon. Mais et assez drôlement, d'ailleurs, parce qu'il dit au prêtre, il aime bien le prêtre. Apparemment, c'était un type bien, ce prêtre. Parce que le prêtre, après, dans une lettre, dit « Je dois reconnaître, je dois dire que c'était devenu un ami et que j'ai pleuré quand il... » quand il a été pendu. Bon. Et donc il dit au prêtre, écoutez, j'aimerais bien, ça m'arrangerait, dans les circonstances où je suis, j'aimerais bien croire à la vie éternelle, etc. Mais non, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Quoi. Donc il est très... Et comme ça, il reste inflexible. Et en même temps, il y a cette circonstance tout à fait mystérieuse, parce qu'on ne sait pas, qui c'est, cette Sophie de Poitiers. Bon, en tout cas, il a reçu une lettre, la prison l'a ouverte, bien sûr, et qui était envoyée par une certaine Sophie de Poitiers. Et là, sa dernière volonté à Barthélemy, c'est d'être pendu avec, dans ses mains, lié derrière le dos, la lettre de cette Sophie de Poitiers. Voilà.
On va rester là-dessus, c'est trop beau.
C'est trop beau, ouais.
Ça s'appelle « Jusqu'à ce que mort s'en suive », c'est d'Olivier Rollin, c'est paru chez Gallimard. Merci en tout cas pour ce livre, et il y a déjà des projets en cours.
Oh, ils sont tellement vagues que je ne peux pas entreprendre d'en parler, parce que c'est quelque chose, c'est des espèces de nuées, de thèmes, enfin, c'est pour l'instant, c'est à l'état absolument nébuleux, quoi.
Merci en tout cas pour celui-là.
J'aimerais bien non pas croire à la vie éternelle, mais j'aimerais bien avoir déjà un projet dont je puisse vous faire part, mais ça n'est pas encore le cas.
À une prochaine fois, j'espère. Quand même.
J'espère aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire, et c'était donc Olivier Rollin qui nous parlait de « Jusqu'à ce que mort s'en suive » paru aux éditions Gallimard. Et dans quelques instants, on va retrouver Erwan Desplanques pour son recueil de nouvelles qui est paru aux éditions de l'Olivier. Très très beau recueil de nouvelles qui s'intitule « La part sauvage ». Voilà, on retrouve tout de suite Erwan Desplanques. Radio Libertaire 89,4 MHz. On est ravis de retrouver Erwan Desplanques pour parler d'un recueil de nouvelles qui est paru aux éditions de l'Olivier. Recueil de nouvelles qui s'appelle La part sauvage. Et on discutait un petit peu avant de commencer cet entretien à propos justement de l'intérêt pour les nouvelles. Parce que moi, c'est un de mes genres de prédilection. Je trouve que c'est l'un des plus difficiles aussi en matière d'écriture, parce qu'il nécessite une certaine exigence de la part de l'auteur, parce que dans un roman, il y a des ventres mous, avec une nouvelle, on ne peut pas se permettre ça. Et donc au niveau écriture, ça doit être vraiment sous tension en permanence. Et c'est un genre qui a connu ses heures de noblesse en France, qui était très, très prisé, les journaux en publiaient, et puis qui est tombé un peu en désamour. Et je trouve ça dommage, surtout que dans une époque où on n'a pas forcément énormément de temps à consacrer à la lecture, une nouvelle, justement, c'est un format qui peut être intéressant. Alors, c'est vrai qu'il existe différents types de nouvelles. On a été habitué aux nouvelles à chute, entre guillemets. Ça, c'est un genre assez connu et classique. Et puis, il y a ces nouvelles qui sont... peut-être parmi mes préférés, qui sont des nouvelles d'ambiance ou de situation, et où tout le travail n'est pas mâché pour le lecteur. Et La part sauvage, Erwan Desplanques, ce recueil de nouvelles paru chez Olivier, s'inscrit dans cette dynamique-là.
Alors oui, je vous remercie. Moi, c'est un genre que j'affectionne et un format que j'affectionne particulièrement aussi. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de très grands auteurs, notamment des auteurs étrangers, je les préférais largement dans les nouvelles. Je préférais leurs nouvelles à leurs romans. Je vais prendre des exemples. Quelqu'un comme Russell Banks, quelqu'un comme Murakami, un auteur comme Colum McCann ou d'autres. Il y a parfois des romans certains de leurs romans, c'est très souvent brillant, mais il y a certains romans que je trouve un peu naturalistes, parfois un peu bavards. Vous parlez de ventre mou, oui, moi, de temps en temps, je ne sais pas aussi si c'est lié à ma formation journalistique et à la générosité de l'efficacité. Mais en tout cas, oui, de temps en temps, je me dis ça pourrait être un peu coupé, un peu élagué, etc. Moi, quand j'écris, j'ai toujours l'impression de trop en dire et me dire la beauté tient vraiment à la concision. Vous parliez de tension. Je pense qu'effectivement, il y a dans la nouvelle quelque chose, une forme de tension qui pourrait être presque celle du polar, qui est injectée dans le drame intimiste ou dans le huis clos. Et ça me plaît beaucoup. Alors, c'est pourrait être un format effectivement adapté au mode de consommation culturelle d'aujourd'hui, plus fragmenté, mais ça reste un format assez exigeant. Il faut retrouver des personnages à chaque fois, les comprendre, s'immerger. Il faut aimer aussi la part d'ambiguïté, la part d'inquiétante étrangeté qu'il peut y avoir dans ces ambiances. Il faut aimer une certaine littérature minimaliste. C'est mon cas. Moi, j'aime bien aussi des petits livres de 100 pages, très secs, des éditions de Minuit, des textes d'Yves Ravet ou de Vincent Almendros, où on est comme ça, dans une sorte d'hésitation, et à la fois la prose est limpide, et en même temps, tout le sous-texte est très, très flou, ambigu. Et c'est ce que j'aime. Un léger inconfort et en même temps un plaisir de la langue. Et en même temps, des textes qui sont très accessibles. Ce que j'écris n'est pas expérimental et pas lyrique.
Ah, pas du tout.
Dans l'efficacité maximale. Mais en même temps, j'essaie de préserver une ambiguïté parfois des relations et que je juge en plus. Il me paraît très vraisemblable, en fait, dans la vie de tous les jours. Ces entremêlements de tragiques, de comiques, de moments flous, d'ambiguïté, de troubles, etc.
Oui, et puis j'allais dire, dans une époque où on a tendance à avoir un mode de pensée un peu binaire, algorithmique, qui ne correspond pas du tout à nos manières de vivre, revenir au travers de ces nouvelles à la complexité des possibles, à la complexité des hypothèses et au fait qu'il n'y a pas de réponse absolue, me paraît sain et en tout cas ça fait du bien à lire.
Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, et c'est vrai que moi j'ai une formation de journaliste et je suis toujours journaliste. Quand les gens me demandent pourquoi je m'obstine à publier un livre tous les 3, 4 ou 5 ans, je crois que c'est pour justement travailler le ténu, le flou, le mystère de certains gestes, de certains mots, l'ambiguïté de la nature des liens entre les êtres. Là, c'est un texte où il y a beaucoup de face-à-face, de huis clos, avec une certaine tension, avec à la fois du ressentiment et du pardon ou de l'absolution. Et tout ça se mélange autour de quelques gestes et de quelques mots. Et moi, ça me touche, ça me touche beaucoup, la vulnérabilité, l'ambiguïté des liens qui nous unissent, une manière de temps en temps de rompre le lien pour préserver une forme d'amour. Enfin voilà, des choses qui sont de l'ordre de l'infime et en même temps qui sont essentielles.
La part sauvage, c'est donc un recueil de 10 nouvelles. Le titre est important parce que on peut dire d'une certaine manière que c'est le fil rouge de ces nouvelles.
Oui, alors là c'est drôle parce que je constate une petite overdose de l'adjectif sauvage dans la production littéraire actuelle, où il y a un animal sauvage de Joël Dicker, il y a un du côté sauvage, un carnaval sauvage. Le mot commence à être un peu galvaudé. Je pense qu'il doit répondre à un désir de l'époque, un désir d'ensauvagement symbolique. Mais c'est vrai que dans ma nouvelle c'était adapté. J'ai commencé à écrire ce recueil avec un texte plus personnel, qui était une nouvelle, j'allais dire directement autobiographique, qui est la seule de ce recueil, qui donne son titre, qui s'appelle La part sauvage, où je suis parti en quête d'un zoo créé par mon grand-père près de Reims à la fin des années 70. Un zoo qui a fait faillite au bout de 2 ans, et on avait perdu toute trace de ce zoo. Moi, je ne l'ai pas connu. Je suis né juste après la fermeture de ce zoo, la faillite de ce zoo. Et pour avoir bien connu mon grand-père, qui était par ailleurs psychiatre et qui était fondateur d'une clinique psychiatrique pas très loin de ce zoo.
Oui, et je me permets d'intervenir. C'est un personnage assez fascinant parce qu'il fait partie de ceux qui ont prôné la psychiatrie institutionnelle dans toute la force thérapeutique qu'elle peut avoir. Et donc, ce n'est pas n'importe qui comme personnage. Et d'ailleurs, vous l'évoquez dans la nouvelle, entre cette institution psychiatrique et le zoo, tous les liens qu'on peut créer sont particulièrement intéressants.
Exactement. Et je pense que par rapport justement au mouvement de la... la psychiatrie institutionnelle de la du désaliénisme, etc. Lui, il avait moins une approche intellectuelle comme pourront l'être celle de Foucault ou d'autres, mais une approche tout à fait pragmatique qui lui venait d'un passé de prisonnier. Et quand il a fait son internat à la sortie de la guerre à Sainte-Anne, il a retrouvé des sensations de le côté carcéral, et il s'est dit qu'il fallait trouver une alternative à ça. Il a fondé une clinique beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte sur la nature, sur des activités, sur de la réinsertion, et voilà. Et donc il a vraiment bâti une clinique dans un village à 15 minutes de Reims, et après il y a eu cette énigme du zoo qui pour moi était un motif incongru, poétique, et j'ai commencé à spéculer sur cette, à élucubrer sur cette histoire, en disant pourquoi est-ce qu'il voulait créer de la zoothérapie à côté, etc. Et ayant peu de, mes oncles et tantes étaient très concis sur le sujet, donc ça finit par constituer un petit motif d'obsession pour l'être que je suis. Et donc j'ai fini par demander à ma mère de m'emmener, et on a cherché le zoo pendant des heures dans une forêt, dans une sablière près de Reims. Et alors je vais pas tout divulgâcher. Mais voilà, on est parti en quête des vestiges de ce zoo, et derrière ce zoo, évidemment, derrière ce motif qui est à la fois joli, incongru, etc., presque fantasque, oui, un questionnement beaucoup plus fondamental sur, j'allais dire, moi, la part sauvage, la part obscure, les désirs, ces éclairs de fausse lucidité ou d'aveuglement qui nous conduisent à prendre des décisions, à déployer une lubie personnelle qui est peut-être le paravent de souffrance, de désir, de non-dit. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et la plupart de ces nouvelles partent souvent même d'un élan, j'allais dire, qui précède l'élaboration sur le plan psychique, psychanalytique, qui précède le langage. C'est ce geste qui nous échappe, ou cette décision qu'on croit à un moment la plus lucide de notre vie et qui se révèle d'une absurdité profonde, mais évidemment on le découvre trop tard. Et ça donne des moments qui sont à la fois qui sont comiques, qui peuvent être tragiques, qui peuvent être beaux, flamboyants, ou au contraire pathétiques, qui nous emmènent dans des enlisements. Et voilà, il y a plein d'exemples dans ces nouvelles d'une fille qui se brûle avec un four. Enfin, on peut parler de... voilà, on ne sait pas si elle le fait exprès ou pas. Enfin, voilà. Thank you.
Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que déjà, ce sont des personnages qui, à la base, sont des personnages ordinaires. Même si vous dressez, j'allais dire, un éventail important au niveau typologie sociale, on pourra l'évoquer, justement, cette pluralité et cette richesse, mais c'est des gens comme vous et moi, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui fait qu'on se projette aussi dans ces histoires et qu'elles déclenchent des émotions, c'est qu'ils sont nous-mêmes, d'une certaine manière. Et vous évoquez le côté pathétique ou tragique, mais pas que, parce que quelque part, on a l'impression que cette part sauvage, quoi qu'il arrive, les remet en mouvement.
C'est vrai.
Et moi, ça m'a intéressé, ce retour de la vie, du vivant, qui fait que, bon, bien sûr, il va y avoir des conséquences, ça va bousculer les choses, mais en tout cas, il va enfin se passer quelque chose.
Ce ne sont pas des personnages qui subissent, ce sont des personnages qui agissent, même si l'action... peut avoir une dimension étrange, etc. Mais en même temps, vous avez raison, ce sont des personnages qui nous ressemblent, qui sont ordinaires, parce que je pense que la frontière est très ténue entre le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la douce folie et s'intègre au banal, s'imbrique à la banalité de notre quotidien, de nos jours, où il y a un moment où on a une idée qui nous traverse la tête, et c'est pas le surgissement de la grande folie, c'est la petite folie ordinaire, c'est l'impulsion, c'est l'intuition qui est juste ou qui est parfois un petit peu à côté et qui nous fait, en tout cas, effectivement, qui crée un éveil, un réveil, et qui propose une bifurcation, qui ouvre un champ, qui ouvre une vitalité possible, quelles que soient les conséquences qu'on ne mesure jamais totalement. Mais effectivement, c'est parfois une part saine, j'allais dire, c'est presque le plus sain de l'irrationnel, du surgissement de l'irrationnel. Et d'ailleurs, quand je parle de part sauvage, c'est pas que une sorte de part bestiale. Au contraire, je pense souvent, je pense même que c'est une part d'humanité profonde qui surgit face à une forme de sauvagerie qui serait une sauvagerie, qui serait le cynisme ou l'inaction totale, le renoncement, la résignation, ou effectivement tous les excès d'un néolibéralisme hyper étouffant, etc., et qui commet une sauvagerie au quotidien, qui est la vraie sauvagerie d'ailleurs. Et la part sauvage, c'est aussi la souvent, mais dans mes personnages, une sorte de sursaut ou de réflexe qui est pour moi, qui est de l'ordre du réflexe d'humanité. Oui. La première nouvelle, c'est un homme qui est tranquillement chez lui et il y a son ancien patron qui sonne pour lui dire « Est-ce que tu peux m'aider dans un procès pour harcèlement ?» Et cet homme, cet ancien patron, a oublié qu'il a lui-même harcelé ce salarié à qui il vient demander de l'aide. Et ce salarié, au lieu de les conduire, il lui dit quand même un peu ses quatre vérités, mais à un moment, il essaie de le sauver aussi. Et il y a la part sauvage, et puis il y a aussi la part qu'on essaie de sauver dans une relation, chez un individu. Je m'en suis rendu compte a posteriori, mais je pense que c'est un livre qui tourne beaucoup autour de cette question du pardon aussi. Oui. C'est presque un livre qui est qu'une dimension plus christique ou chrétienne que je ne l'avais souhaité au départ, mais ça m'a frappé à la relecture, en fait, cette question-là. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut sauver aussi d'un être, d'un individu, d'une relation pour pas arriver à la brisure définitive.
Alors, c'est pardon de l'autre ou pardon de soi également. Oui. Et ça, c'est important. Alors, en vous écoutant, je pensais justement à la nouvelle qui s'appelle La Brûlure, où, bon, on va pas dévoiler toute l'histoire, mais les protagonistes sont en train d'écouter une émission littéraire et ils cochent les cases au loto des interviews littéraires, entre autres en écoutant le mot résilience. Je me disais surtout ne pas le prononcer.
Alors oui, bah ça oui. Je m'amuse un peu de.
Oui, je crois qu'on le fait tous.
Mais des travers de ces émissions littéraires, enfin à travers ou pas. D'ailleurs, je pense que c'est très compliqué pour avoir été invité, puis pour voilà, même l'exercice. Alors la radio, on se sent plus à l'aise, mais devoir parler comme auteur avec être maquillé déjà pour après révéler une parole censée être la plus spontanée possible, alors qu'on a trois caméras braquées sur soi. Je pense que c'est jamais évident. Mais je m'amusais d'une romancière ou écrivaine, ayant moi-même eu ce souvenir-là, de voir une de mes amies à la télé, elle trafiquait complètement sa voix, se mettait à imiter un peu une sorte de Fanny Ardant imitant Marguerite Duras, enfin voilà, et avec quelque chose de presque parodique. Et puis j'imaginais en face des amis, des anciens colocataires en train de cocher un loto de toutes les de tous les clichés des auteurs en promotion qui voilà. C'était un peu aussi un clin d'œil au milieu, aux amis écrivains, auteurs. Voilà. Et après, derrière, il y a une histoire beaucoup plus profonde.
Oui, bien sûr, bien sûr.
De soi, de l'inaccomplissement, du ressentiment, des frustrations avec lesquelles chacun essaie de cohabiter. Et de, voilà.
Oui, en fait, alors pour terminer sur la parenthèse littéraire, on peut dire que Véronique Ovaldé est présente dans le livre au travers d'un extrait de son livre. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, alors je suis ravie de lui faire coucou. Mais pour revenir à vos nouvelles, oui, le pardon est présent, mais j'allais dire que ce qui peut-être déclenche la part sauvage, c'est justement le fait de ressentir une émotion pour chacun des personnages qu'ils n'arrivent pas à gérer autrement que comme ça. Alors, il y a effectivement, vous évoquiez donc la première nouvelle qui s'appelle « L'homme debout » avec cette irruption de ce patron harceleur qui vient et qui réveille tous ces sentiments-là, et on ne dira pas la suite. Pour la brûlure, c'est un constat assez terrible que va faire le personnage principal. Il y a, je pense aussi à Flora Bell, où là, c'est une notion de... Alors, c'est tout un travail aussi sur ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas de sa vie, mais il y a une notion d'injustice qui apparaît. Et à chaque fois, on a quelque chose comme ça. La catastrophe privée, bah, c'est la même chose. C'est une douleur et une tristesse, une perte d'estime de soi très, très importante. Enfin, il y a toujours une émotion incontrôlable qui surgit et vous allez faire en sorte que le personnage trouve sa réponse.
Oui. Et c'est de composer avec cette émotion. Et c'est vrai que là où l'émotion pourrait susciter une pure révolte, une volonté, quelque chose d'un peu plus spectaculaire dans la réponse ou dans la réaction, de l'ordre de la sécession, de l'ordre de l'explosion, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est d'aller chercher quelque chose de plus en sourdine, plus de l'ordre de l'implosion, des tentatives de réparation, des façons de colmater les brèches, avec des personnages qui et je trouve ça beau aussi, je trouve ça peut-être plus vraisemblable que le grand panache, le coup d'éclat en disant voilà, là il y a un homme qui se rend compte qu'il est dans une catastrophe privée, qu'il est trompé par que sa femme le trompe. Et là, on pourrait attendre des hauts cris et du théâtre de boulevard. Je sais au contraire de dire maintenant, quelqu'un qui dit on va essayer de continuer, de faire avec, d'inventer une voie possible, une conciliation possible, un terrain d'entente, une connivence qui perdure. On va essayer de préserver un lien, quel qu'il soit, on va l'inventer et avec une forme de douceur, d'humour, de délicatesse. Enfin, moi, c'est ça qui me touche le plus, parce que je pense, encore une fois, que c'est ce qui est le plus vraisemblable. Mmh. Et ça m'apporte beaucoup quand je lis un texte de retrouver une forme de justesse psychologique. Je suis tout le temps motivé par ça, en me disant, mais t'entends, je vois dans des livres des réactions de personnages qui me paraissent scénaristiques et finalement éloignées de la réalité du vécu.
Bottom of the sea,
Intéressant en plus, c'est que pour donner de la force à ces histoires, vous accentuez, j'allais dire, le récit par le biais de la sensorialité. qui est extrêmement importante et présente. Je pense à cette histoire de cet homme qui est trompé. On peut juste évoquer que ça se passe, donc l'histoire se passe dans une maison de vacances en Italie, avec d'une beauté absolument incroyable, avec l'importance des matériaux, de l'escalier en pierre. Le fait que, comme la petite fille a un problème d'amblyopie, il faut mettre un cache sur l'œil, et donc ils vont à un moment tous avoir un cache, et lui il va s'en mettre un deuxième. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Il y aura dans La Tempête, il y aura les éléments déchaînés. Dans Flora Belle, il y aura ce décor très très particulier. À chaque fois, vous passez effectivement par non pas le mental, mais qu'est-ce que nos sens nous renvoient et comment ça s'organise tout ça.
Alors c'est vrai et c'est ce qui. Alors il faut le penser dans une nouvelle. On n'a pas. Je suis pas. D'ailleurs, je ne décris pas beaucoup, mais c'est là où il faut en trois phrases penser un décor, un cadre et effectivement. Une ambiance, une atmosphère. Et l'atmosphère, elle va être liée aux endroits, aux lieux, au terrain de jeu. À un moment, je voulais. Alors là, c'est totalement. C'est le goût subjectif, c'est l'arbitraire. À un moment, je voulais une tempête sur une île. J'avais envie de raconter une tempête sur une île. J'avais envie de décrire en cinq lignes la grêle qui tombe sur une fille qui fait du vélo. Et j'avais envie de cette image. Et là, c'est vraiment un pur caprice d'auteur. On a envie d'une image. J'avais envie d'une influenceuse dans une grande maison californienne, mais le long de l'océan Atlantique, avec du sol en ardoise. Enfin voilà, ça j'ai vraiment envie de me, c'est le caprice de me projeter dans des décors qui m'intéressent ou qui m'amusent ou qui résonnent, etc. Après j'essaie de trouver le décor le plus adapté à l'histoire que je veux raconter, et ensuite je vais essayer de chercher, j'allais dire l'anomalie ou l'élément qui vient perturber le cadre, le qui vient décor. Perturber le décor. Ouais. Vous parlez de la belle maison en Italie, la grande maison de vacances, etc. Il y a la montagne, c'est une famille plutôt bourgeoise, les frères qui aident, qui rendent service, on met la table, etc. Et là, il y a une petite fille qui est en train qui a un problème de vue, à qui on est obligé de mettre un cache pour faire travailler l'autre œil. Et finalement, comme elle veut pas le porter, tout le monde se met à porter un cache. Et ça, c'est un élément de... C'est presque une béquille, oui. Symbolique, et puis pas que, ça vient apporter un peu d'inconfort, un peu de burlesque, un peu de fragilité en même temps, et c'est à la fois un outil, là je peux dire, romanesque ou scénaristique, mais qui est pour moi indispensable, qui vient perturber le champ, qui vient perturber l'image. J'ai envie d'avoir ma belle image, et d'avoir quelque chose qui vient perturber l'image, et qui vient... Justement, attirer le regard, quand Barthes parle du punctum de l'image ou du petit élément dissonant, cette petite fille qui porte son cache sur l'œil vient apporter de la dissonance et quelque chose qui va, et qui touche aussi, et qui vient pointer la fragilité, la beauté de la fragilité, le comique de la fragilité parfois, parce que ce sont des caches fantaisie avec des petits dessins, etc. Et j'essaie dans la plupart des nouvelles d'avoir ça, cet élément d'anomalie qui vient perturber l'image, perturber le décor et apporter aussi une forme de douceur, de fragilité, d'impureté, voilà.
Oui, il y a ça, et c'est effectivement très présent dans chaque nouvelle, et en même temps, il y a aussi, j'allais dire des petits inserts métaphoriques extrêmement puissants. Je repense à la nouvelle « La Tempête », de cette adolescente, donc les parents ont divorcé, le père vit dans l'île de Groix, elle y va deux jours par mois, enfin bon, situation classique. Et elle est avec son téléphone, elle envoie un message à sa mère, qui d'habitude lui répond du tac au tac. Et là, sa mère ne lui répond pas, elle ne lui envoie même pas un émoticône quelconque. Et elle se dit, peut-être que c'est ça la liberté.
Eh oui, elle dit c'est ça la liberté, l'absence, ou oui, c'est ça... que personne ne lui réponde, et ça c'est, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que pour raconter, on parlait souvent de récits ou de romans d'apprentissage, à un moment, il faut essayer de concentrer faire une nouvelle d'apprentissage, comme on parle de roman d'apprentissage. Une nouvelle d'apprentissage où c'est de trouver le point de bifurcation, le point, le moment où une adolescente voilà, passe à l'âge adulte. Et ça peut jouer parfois, on peut le cristalliser sur la durée d'un week-end ou d'une scène. Où à un moment, elle comprend, voilà, avec son père, il y a une dissension, qui est pas totalement, qui est un peu larvée, il y a un conflit un peu larvé avec le père, en même temps beaucoup d'attachement, beaucoup de tendresse. Le père qui est devenu maraîcher sur l'île de Groix, qui en bave, qui ne l'assume pas vraiment, qui reste dans son combat, qui est un peu perdu d'avance contre les éléments, contre une situation précaire et qui n'est pas durable. La fille le voit, n'ose pas le dire à son père, le père le pressent mais n'ose pas se le dire à lui-même. La fille communique avec la mère, puis à un moment, la mère est prise dans autre chose, et la fille se dit « je suis seule », et en fait, être seule, c'est le statut de l'adulte. Et passer à l'âge adulte, c'est accepter cette solitude-là, et en même temps, c'est la possibilité, cette solitude-là, et la possibilité de l'affranchissement, de l'émancipation, de tout ce qu'on sait d'une vie la plus banale possible, mais à un moment, il faut essayer de l'incarner dans un instant de vie. On aurait pu faire, c'est vraiment, il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école Tolstoï qui dira, je vais raconter la vie de cette jeune fille depuis sa naissance, la séparation de ses parents, son père sur l'île de Groix, les allers-retours, etc., et de faire une fresque. Et puis, il y a l'option inverse de dire, je vais prendre 24 heures de la vie de cette fille, en 15 pages, et raconter comment, avec tous les bagages qu'elle porte de l'enfance, la séparation de ses parents, le fait de payer le choix de ses parents, et à un moment de se dire, mais non, en fait, je deviens une adulte et je suis libre, et dans cette liberté, il y a beaucoup à perdre, il y a beaucoup à gagner.
Jouer au funambule, de tromper la folie au gré des rêves,
parle toujours donc de ce recueil de nouvelles qui s'appelle La part sauvage d'Erwan Desplanques, qui est paru aux éditions de l'Olivier. Alors, on ne va pas en dévoiler plus, mais si vous voulez bien, on va parler de la dernière, qui s'appelle Julia, et qui est un petit peu différente des autres. Ouais. Alors, moi, je l'ai perçue comme étant différente des autres.
Bah, alors, je ne... Vous me direz pourquoi. Elle est sans doute un peu plus mélancolique ou crépusculaire, et c'est un face-à-face entre un narrateur qui est un peu désœuvré dans une petite ville d'Île-de-France, très proche de la forêt, et une ex-gloire du cinéma italien qui coule des jours à peu près paisible de retraité du cinéma, à peu près à l'abri des regards, et une amitié se noue, un lien se noue entre cet homme qui discute, qui converse, qui parle de cinéma avec cette femme, qui lui raconte ses souvenirs. J'en dis pas beaucoup plus, sinon que voilà, le nœud entre les deux, on comprend que cette vieille gloire n'a pas forcément beaucoup d'années à vivre devant elle, et que lui se retrouve un peu le porteur ou le garant de cette mémoire de manière totalement, parfaitement accidentelle, qui est liée simplement à la proximité géographique, à leur rencontre inopinée sur une place du village, et quelque chose se noue. Alors, je dois dire qu'en plus, c'est une nouvelle qui met, que je dédie à un de mes amis qui est en train de vivre une situation assez proche avec une très grande comédienne dont je ne peux pas dire le nom. Voilà.
Alors, moi, je l'ai perçue différente des autres parce que le narrateur n'est pas le personnage principal.
C'est vrai. C'est vrai, il est un peu absent, il est un peu en retrait, ouais. Il est un peu à l'écoute. Il est le réceptacle du témoignage et de la vie d'une autre. Et il est peut-être un peu plus passif que dans les autres nouvelles où le narrateur prend une décision et une impulsion. Et là, il est plutôt l'oreille, le confident. Simplement dans son, j'allais dire, il est actif dans son écoute et il est dans le perpétuel questionnement de comment écouter, comment accepter un témoignage, comment participer à un échange à un moment où la personne commence à divaguer un petit peu. Quelle est sa place? Quel est son rôle? De témoin, sur le plan cognitif, sur le, est-ce qu'il est là pour la stimuler, est-ce qu'il est là comme médecin, comme aide-soignant, comme témoin au contraire archi gâté d'une grande mémoire du cinéma. Donc il doit quand même trouver sa place. Il y a quand même la question de être à sa place et du rôle qu'on doit jouer. Donc il est à la fois passif, mais dans l'écoute active qui est la sienne et dans le rôle qu'il joue finalement, et voilà, c'est pas si éloigné de d'autres personnages.
Et la nouvelle et le livre se termineront sur un rire.
Oui, bah c'est et un rire teinté de mélancolie avec un peu de gris, un peu de noir derrière. Et ça me plaît. C'est aussi le rire qui est le rire de qui nargue les événements, qui nargue la mort, la peur de l'avenir, la peur de mourir, un rire contre l'anxiété, un rire vital, un rire mélancolique, un rire poli. Et moi, j'essaie moi-même, en écrivant, d'avoir toujours, c'est-à-dire le sourire aux lèvres, mais de mon livre précédent était très autobiographique, était un livre de deuil qui parlait beaucoup de la mort de mon père, et j'essayais toujours de montrer que ces moments, dans les moments les plus tragiques, les plus durs, il y avait toujours le surgissement de perturbations comiques qui étaient la revanche ironique de la vie, même de la vie pure, de parfois de la joie pure. Et ça m'intéresse de le... Dans les auteurs que j'aime le plus, il y a toujours cette ambivalence, cette alternance, le rire qui vient se glisser au milieu des larmes, etc. Ça fait cliché de le dire, mais il faut, j'essaie, j'y pense en permanence. Justement, pour éviter le pathétique, à la fois, on parlait des décors tout à l'heure, j'essaie d'éviter le pittoresque, le décor qui n'est là que pour lui-même et qui n'est pas là comme support du, voilà, comme comme enveloppe d'une intrigue, d'un drame intime et puis intérieur. Et puis même chose sur le rire. J'essaie d'éviter la pochade ou l'excès de bouffonnerie, mais d'avoir quand même des petites une sorte de frémissement, de surgissement burlesque un peu partout, mais voilà, de manière bien dosée. Et parfois, dans une nouvelle, ça se joue à un mot, à une ligne, à une réplique, où c'est trop comique, donc ça devient un peu potache, ou à l'inverse, c'est un peu sombre, il faut remettre un élément. Parfois, c'est simplement un élément trivial qui vient, hop, désamorcer une pompe ou quelque chose d'un peu trop facilement tragique.
Mais en tout cas, c'est ce qui nous a plu dans ces textes. Merci beaucoup, Erwan Desplanques.